بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخان الإسلام يونا passer en revue quelques ahadith qui rappellent l'importance du dhikrullah. Et l'objectif, c'était de prendre conscience que le jeûne, la journée de jeûne qui sera animée par le maximum de dhikrullah, ce sera certainement la meilleure journée de jeûne. Et que le meilleur jeûne du mu'min, c'est celui pendant lequel il fait le plus de dhikrullah. Nous allons voir aujourd'hui une autre, on va dire, une autre catégorie, on pourrait dire, de dhikr, et qui est certainement le meilleur des dhikr, c'est la lecture du Coran. Et nous savons que le mois de Ramadan, par excellence, c'est le mois du Coran. Mois du Coran parce que le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Et là, on parle de la première révélation qui reste au niveau des cieux. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a révélé le Coran de façon fragmentée en fonction des besoins et des circonstances pendant combien d'années ? Pendant toute la prophétie, c'est-à-dire 23 années, barakallahu fik, de la prophétie. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait tous les ans la visite de l'ange Jibril alayhi salam durant le mois de Ramadan, qui le faisait relire l'intégralité du Coran une fois. Et la dernière année, donc juste avant son décès, l'ange Jibril a fait relire l'intégralité du Coran deux fois. Donc on comprend que le mois de Ramadan, par excellence, c'est le mois du Coran. C'est le mois où on fait vivre le Coran tilawatan, par la lecture, mais également par la prière. Et la salat de Tarawih, par excellence, c'est, on va dire, le meilleur exercice spirituel pour essayer d'écouter et de lire un maximum de Coran et de se montrer patient et endurant dans l'écoute des versets en position debout, dans les longues unités de rak'at dans notre salat. Et donc l'auteur, rahimahullah, rappelle que le mois de Ramadan, huwa shahr al-dhikr, c'est le mois de la pensée d'Allah par excellence. Il dit: وَخَيْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ بِهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ هُوَ كَلَامُ. Et la meilleure façon pour un musulman de penser à Allah durant une journée de jeûne, c'est par sa parole. La parole d'Allah qui est le meilleur dhikr, وَهُوَ خَيْرُ الْكَلَامُ, c'est la meilleure des paroles, وَأَحْسَنُهُ وَأَصْدَقُهُ وَأَنْفَعُهُ, la parole la plus véridique et la plus profitable. الَّذِي لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ, cette parole qui est protégée, qui est parfaite et qui ne sera jamais atteinte, jamais modifiée d'aucune façon. Et meilleur des livres qu'Allah a révélé sur le meilleur des prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et donc, l'auteur al-mu'allif rahimahullah, d'abord il commence par citer l'avis, pas l'opinion, mais l'avis de, voilà, plutôt une citation de Abu Abdurrahman al-Sulami rahimahullah, qui compare le Coran par rapport aux autres paroles. Et il dit: fadlul Qur'ani ala sa'iril kalam ka fadlir rabbi ala khalqihi wa dhaka annahu minhu. La différence, ou on va dire la supériorité du Coran, qui est la parole d'Allah, sur n'importe quel autre écrit, n'importe quel ouvrage, n'importe quel livre, n'importe quelle autre parole, c'est exactement comme la supériorité d'Allah sur ses créatures. Parce que le Coran vient d'Allah. Le Coran est une des sifas d'Allah, c'est Kalamullah, la parole d'Allah, Azza wa Jal. Et il cite ensuite l'avis de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Comment ça s'appelle quand un sahaba donne son avis ou cite ou fait une citation? Ça s'appelle un mawquf. Man kana yuhibbu. Alors là, c'est une phrase test pour que le mu'min arrive à comprendre est-ce qu'il aime Allah vraiment. Man kana yuhibbu an ya'lama. Celui qui veut savoir annahu yuhibbu Allah, celui qui veut savoir s'il aime vraiment Allah Azza wa Jal, mais il faut qu'il se mette à l'épreuve à travers la lecture du Coran et qu'il essaie de le lire. Fa'in ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah. Si lorsque tu prends un mushaf, un Coran, et tu le lis avec apaisement de cœur, et tu le lis, tu es capable d'enchaîner les pages, les djouz et tu as encore envie de lire sans jamais éprouver une quelconque lassitude, c'est que de ton cœur tu aimes Allah. Fa innama al-Qur'an kalamullah, parce que le Coran il reprend, c'est la parole. Ainsi donc c'est un test, si nous voyons que nous sommes attachés au Coran et que nous aimons le lire régulièrement, ça veut dire que dans notre cœur il y a l'amour pour Allah. Et comprenons par opposition, si on n'aime pas lire, ou alors on lit un peu et on s'arrête, on fait autre chose et on a du mal, c'est qu'intérieurement il y a quelque chose qui manque. Il y a une foi en Allah qui n'est pas assez complète. Maintenant je tiens à rassurer ceux qui n'ont pas appris à lire le Coran de leur jeunesse, ou quelles que soient les circonstances, ça peut être quelqu'un qui est reconverti à l'islam, ou quelqu'un qui n'a pas été, qui était dans un endroit où il n'y avait pas de madrasa, ce qui est chose possible. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas lire, du coup, par rapport à cette citation, que ça veut dire qu'on n'aime pas Allah. Non, là, on rectifie. Ça, c'est pour quelqu'un qui sait lire le Coran couramment et qui ne le fait pas. Ou quand il le fait très peu, il arrête immédiatement. Quand on le protège de cette situation, c'est une preuve manifeste de faiblesse de foi. Et justement, le Mu'allif rahimahullah rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce mois béni, il lisait le Coran abondamment et il faisait de longues unités de prières dans lesquelles il lisait abondamment le Coran, de grands passages, comme nous le faisons dans la Salat al-Tarawih, mais également comme on devrait le faire pendant le Tahajjud, la prière de la nuit. Et justement, la prière de la nuit, par excellence, c'est une prière où on doit essayer de rester longtemps, de passer beaucoup de temps dans les différentes positions. Il doit se distinguer d'une prière, on va dire, ordinaire, hein, avec des guillemets. La position debout, elle doit être plus longue. Ce qui veut dire de le tahajjud, on ne va pas lire « wal asri » et « inna atayna kal-kawthar ». Ça va compter, ce sont des versets, il n'y a pas de doute. Mais dans tahajjud, il faut lire de longs passages. D'accord ? Si on mémorise des passages du Coran, mashallah, c'est l'occasion de les lire. Si on ne connaît, on n'a pas eu l'occasion d'apprendre par cœur, mais on connaît juste les grands classiques, hein, les bases, c'est Yassin, Kahaf, Tabarak Alladhi, ben, c'est le moment de les lire aussi. Yassin, si on fait en deux unités de prière, c'est mashallah, ça fait beaucoup déjà. D'accord ? Suratul Mulk en une rak'at, c'est beaucoup. Ou alors en deux rak'at, c'est pas mal non plus. Et Al-Kahaf, non, Hadith wa la Haraj, Kahaf, ça vous prendrait une soirée. Hein, si on découpe deux pages ou trois pages par unité de prière. Donc, on essaie au maximum de faire des unités de prière qui sont longues. Et également, les autres positions, la génuflexion, le ruku', on ne va pas lire que trois fois Subhan Rabbi al-Azim. C'est l'occasion de le lire abondamment. On peut le lire 7 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, autant de fois qu'on veut, parce que ce sont des namaz qui sont nafil. Et on peut même, ça en est l'occasion d'expliquer l'année dernière et les années avant, dans la dernière décade, on peut même changer de dhikr. On se fie à un petit livret, là, la citadelle du musulman, où il y a les adhkar du ruku' qui sont mashrou', qui ont été enseignés par le Prophète sallam. Il y a Subhan Rabbil Azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim, Subhan al-Malik al-Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, et ainsi de suite, des adhkar qu'on peut lire dans le ruku' ou dans le sujoud de la prosternation, histoire de varier un petit peu. Suggestion d'un sujoud dans la prosternation, par exemple, vous lisez 20 fois, c'est pas une sunna, mais je veux dire que ça c'est maftouh, c'est ouvert ça, c'est mutlaq. Si vous voulez faire 2 rakat en 2 heures de temps, c'est à vous de le faire. Si vous voulez faire 12 rakat en 2 heures de temps, ça c'est libre. Et donc si on veut lire 10 fois, par exemple, Subhan Rabbil A'la, 10 fois Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-Azim, ou autre Subhanallah bihamdi, A'la dakhalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi, wa midada kalimati ila akhir al-dhikr qui est assez long, ça c'est vraiment très positif. Parce que, très profitable, je veux dire. Parce que le temps qu'on passe dans le ruku' et dans le sujoud, c'est un enrichissement spirituel, hein, en termes de hasanat, c'est énorme. Mais ça nous permet vraiment de communiquer avec Allah dans ces positions qui sont propres à la prière et des positions qui ne sont autorisées que devant Allah. C'est clair qu'on ne se prosterne pas devant autre qu'Allah. C'est clair qu'on ne se met pas en génuflexion non plus devant autre qu'Allah. Vous savez, les Romains, non, pardon, les Grecs, Et les Grecs, ils avaient cette tradition de se courber devant leur roi. D'accord ? Et quand le roi passait, ils se mettaient, on a vu ça une fois dans la
D'accord ? C'est un film, on peut le dire clairement. Et ils étaient tous en c'était incroyable. Je pensais qu'ils étaient en train de faire namaz. Mais ils étaient en ruku. Hein. Et c'était une façon pour eux de montrer leur soumission à leur roi. Ça veut dire que c'est un geste qui existe dans les civilisations. Et donc, nous, en tant que mu'mine, bien sûr, ce ruku, cette génuflexion, elle n'est que devant Allah. Passons du temps à la génuflexion. Même si c'est une position qui est difficile, mal au dos, ça tire, ça tient pas, on n'est pas trop, comment on appelle ça? Les sports là où on doit rester une position bête, figée là. Hein? Le gainage, sans intérêt ça. D'accord? Vous restez debout sans rien faire. Tu perds ta vie. Construis ton affaire. D'accord? Il y en a qui vont rester comme ça. 3 minutes. Michel Farid. D'accord, ben voilà, c'est l'occasion de rester longtemps dans la génuflexion avec le dhikrullah, les adhkar, et en ressentant cette grandeur divine. On revient, alors on s'était un peu éloigné du sujet avec le qiyam al-layl, mais c'était pour dire que ben, passons du temps dans la tahajjud et lisons de longues unités de prière. Maintenant, quelqu'un dit que je ne connais rien d'autre que les 10 derniers sourates. Ça peut, mais dans ce cas, lis les 10. Lis tout ce que tu sais dans une unité de prière. Dans la deuxième, ben, tu relis la même chose, il n'y a pas de souci. D'accord. On voit maintenant les exemples ou la biographie de certains tabi'in et comment est-ce qu'ils lisaient le Coran de façon abondante durant le mois béni. On a Al-Aswad rahimahullah kana yaqra'u al-Qur'an fi kulli laylatayn fi Ramadan. Il lisait un khatm al-Qur'an toutes les deux nuits. C'est-à-dire la première nuit c'était 15 juz. La deuxième nuit, c'était 15 juz. C'est-à-dire 15 sipara, 15 sipara. Costaud, hein. Ils n'avaient pas de Red Bull à l'époque. Hein. C'est pas qu'on mettait des perfusions de Red Bull et puis... Non, aucunement. Baraka. Baraka. Bénédiction divine dans le temps, dans la force. Et c'est tawfiq. Wa tawfiq min Allah. Allah leur donne tawfiq, accepte ces gens-là pour faire... Imam Shafi'i, rahimahullah, je ne vais pas dire bêtise, je n'ai pas les écrits. Même deux khatm al-Qur'an par nuit, à Shafi'i. Et il est rapporté à peu près la même chose de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Donc ce sont vraiment nos modèles dans nos sources d'inspiration. Et ça, c'est un niveau de tabi'in, atba' tabi'in, pas encore au niveau de sahaba. An-Nakha'i, rahimahullah, yaf'alu dhalika fil 'ashr al-awakhir. Dans la dernière des quatre, c'était un khatm al-Qur'an tous les deux nuits. وفي اي سلاك سفي معنى وفي التشنتور وفي بقيه الشهر في ثلاث اي dans les autres mois de l'année, c'est-à-dire là on parle même plus de Ramadan, dans la dernière décade un khatm al Quran toutes les deux nuits, et dans les autres mois de l'année c'était toutes les trois nuits, c'est-à-dire chaque soir ou an-Nakha'i. Et c'est pour ça que ce sont devenus de grands savants et des piliers de la connaissance de la transmission de hadith. Chaque nuit c'était 10 juz, 10 sipara. Et donc, un khatm al-Qur'an tous les trois nuits. Ça, c'était 11 mois de l'année. Et le mois de Ramadan accéléré en mode 15 juz par nuit. Qatada, rahimahullah, kana yakhtimu fi kulli sab'in da'iman. Il avait l'habitude toute l'année de faire un khatm al-Qur'an tous les 7 jours. C'est-à-dire un khatm al-Qur'an par semaine. Faisons le calcul. Il y a 30 juz en une semaine. Ça fait combien de juz par nuit? Ça fait 4,28 à peu près. 4 juz et chouéa. Et on se dit que oui, 4 juz, c'est possible. Taïb, just do it. Juste fais-le. Fais-le. Et on verra. Et c'est quelque chose mais qui reste accessible. 4 juz en une nuit. Un juz, il faut combien de temps pour lire? 30 minutes. 30 ou 40, d'accord? Pas moins que 30. Pas moins que 30, d'accord? Parce que ce n'est pas un exercice de où on chronomètre aucunement. Si on a lu en 20 minutes, c'est qu'on a bâclé, on est parti très vite. D'accord? 30 minutes, ben, 4 fois 30, ça fait 2 heures. 2 heures, c'est accessible. Voilà, ça c'était les grands savants de l'islam. Un khatm al-Qur'an toutes les 7 nuits. Ça c'est toute l'année. Wa fi Ramadan fi kulli thalath. Et dans le mois de Ramadan, toutes les 3 nuits. Attention, attache ceinture à ma maille. Wa fi l'ashr al-awakhiri. Kulla layla. Et dans la dernière des quatre, chaque nuit, un khatm al-Qur'an. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte aux enfants pour les faire dormir, ni des histoires que j'ai inventées pour que vous culpabilisiez ou pour qu'on soit frustré. Non, ce sont là nos modèles. Ce sont là les pieux prédécesseurs. Et voilà, c'est-à-dire que ça, c'est de la capacité d'un être humain. Ce n'est pas surhumain. C'est pas que les nuits là-bas, c'était, ils étaient en Norvège, donc c'était des nuits de 22 heures. Non. Tout ça, c'était en Irak, c'était en Syrie, dans la péninsule arabe, au Cham, dans ces régions-là. D'accord? Donc c'était des horaires normaux, on va dire. Donc voilà des modèles pour nous. Az-Zuhri rahimahullah, إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. Az-Zuhri, là on parle de grands savants de hadith, de grands narrateurs. Il dit que lorsque le mois de Ramadan entrait, il dit que maintenant on se consacre à deux choses: lecture du Coran et donner à manger aux gens. Ce sont deux actions importantes du mois béni. Et un frère m'expliquait tout à l'heure, avant la salat de Isha, il m'a dit, viens faire un iftar à 5 petits d'un jour. Je dis, pourquoi tu viens un peu? Je dis, bon, inchallah. Il m'a dit qu'à la base, on devait se limiter aux dates et un peu d'eau. Oui ou non? C'était le deal. Pas de gâteau cette année parce que, voilà, c'est petit et c'est compliqué à gérer. Il y a juste assez de place pour prier, n'en parlons pas, s'il faut mettre de la nappe à thé et tout, il finira jamais. Et c'est tout à fait juste comme avis. Mais il dit, maintenant, les gens, au fur et à mesure, amènent des choses et ils mettent à l'entrée. Il dit que ça fait des tables, c'est comme des buffets de... J'ai pas vu encore, hein. Mais ça, ce sont de bonnes actions, ça, subhanallah. Hein, ton épouse, elle fait cuire, quelle que soit la nourriture. Ça moussa. Si c'est des bananes frites, peu importe. À quel? Fais manger déjeuneur. Tu amènes, chez chaque moussa, il amène une assiette. S'il y a des tables à l'entrée, vous mettez, les gens, ils viennent, ils mangent, subhanallah. Hasanat, les récompenses qu'on peut obtenir. Et combien ça nous revient? Ça coûte pas grand-chose. Ce sont des actions importantes à faire vivre durant le mois béni. Imam Malik, quand on parle d'Imam Malik, ça vous fait penser à quoi? Un mot. Je veux pas une phrase. Imam Malik, un mot. Hein? Non. Oui, bien sûr. Il voulait juste dire quelque chose. Oui?
Quoi?
Hein? Al-Muwatta. Le Muwatta, entendu parler? Le fameux ouvrage de référence de tout le madhab de l'imam Malik, des Maliki, ce qu'on appelle les Maliki, hein, c'est-à-dire qui suivent l'imam Malik. Muwatta de l'imam Malik, c'est une compilation de hadith exceptionnelle. Donc l'imam Malik a donné sa vie pour la science du hadith. Mais il a dakhala Ramadan, quand Ramadan est entré, il fermait ses livres de hadith, c'est tout. Khalas, c'est plus sa fonction. Et il s'occupait essentiellement à la tilawati le Qur'an. Il occupait l'essentiel de son temps à la lecture du Coran en regardant, même pas Hifdan, lui, il prenait le Coran et le lisait. Voilà, c'est sa façon, lui, de donner de l'importance au Coran. Ainsi, on voit à travers ces quelques anecdotes, ces quelques histoires, comment est-ce que les grands savants passaient l'essentiel de leur temps dans la lecture du Coran durant le mois béni de Ramadan. Maintenant, si on veut passer à un autre stade, on va avancer un peu dans notre lecture du Coran, joindre, de toute façon on peut dire ça, l'utile et l'agréable, la lecture qui nous apporte des hasanats sans le moindre doute, mais en plus de ça, si on veut avoir une lecture qui nous profite vraiment spirituellement, ben là on passe à un autre degré, c'est le degré de tadabbur. Et tadabbur, ça veut dire quoi? Tadabbur, méditer. Méditer sur la lecture du Coran, méditer sur le sens, pardon, des versets et sur le contenu. Afala yadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? À travers ce verset, il y en a à peu près 3 ou 4 où Allah parle du tadabbur, peut-être plus. Allah invite le mu'min à méditer sur le sens des versets, la profondeur du contenu du Coran, et cela est extrêmement profitable. Comment on peut le faire à notre niveau? Ben c'est de prendre un mushaf, quand il y en a, j'en ai vu un là tout à l'heure, les mushaf noirs, hein, où il y a la traduction, ça c'est idéal. Ou alors vous avez des applications ou les traductions du Coran, c'est ce que nous on utilise, c'est des applications qu'on peut télécharger en quelques instants, et il n'y a rien de plus profitable que de lire un verset, la lecture, et de voir sa traduction en français. Moi, je conseille, vous lisez le verset, vous regardez en français, et vous relisez une deuxième fois en arabe, pour refixer le sens de le cœur. D'accord? Ça prend plus de temps, mais le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'avoir une lecture qui est puissante, qui a un sens, qui nous parle, et qui nous est donc extrêmement profitable. Même si on ne comprend pas l'arabe, je veux dire, avec la traduction et la lecture qui suit la traduction, on voit le sens des versets, et c'est quelque chose qui nous est vraiment profitable. Et en tafsir du verset qu'on a dit tout à l'heure, que ne médite-t-il pas sur le Coran, et Allah fait des reproches aux kuffars qui, eux, ils étaient passés totalement à côté du Coran, alors qu'ils l'entendaient et qu'ils le voyaient révélé. Et en commentaire, alors c'est Kalmoufassil qui dit ça, là j'ai pas le nom, mais j'avais déjà lu ça quelque part, il dit que « لو تدبروا القرآن لأوجب لهم الإيمان ولا منعهم من الكفر والعصيان » Si ces kuffars et mouchriquines, à l'époque, avaient pris la peine de creuser le sens des versets et d'essayer de comprendre le sens des versets et de méditer sur le contenu, ben ce contact avec la réalité de la parole d'Allah aurait fait qu'ils auraient eu la foi. Et cela les aurait éloignés du kufr et des péchés. C'est-à-dire que n'importe quel croyant qui donne du temps pour comprendre le sens des versets, ben il trouve la guidée et il se protège des péchés et il se protège également de quoi encore ? Du kufr et du shirk, c'est-à-dire les pires des péchés. Et dans un des versets, c'est un verset que je suis en train de chercher, Allah Rabbul Izza nous rappelle « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhi ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira » On est dans la sourate Al-Isra, qui s'appelle également la sourate Bani Israël, de le 15e juz. Et justement, la traduction du verset, c'est « Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. » C'est-à-dire que celui qui prend les versets comme guide, ben, il va aller vers le meilleur des chemins, le chemin le plus droit qui nous mène, et le plus illuminé qui nous mène vers Allah Azza wa Jal. Et il annonce, c'est-à-dire les versets, aux croyants qui font de bonnes œuvres, qu'ils auront une grande récompense. Juste ce soir, dans en troisième position, le imam avait lu « وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ » Al-istihza, ça veut dire quoi? C'est se moquer. Allah Rabbul Izzah encourage le prophète sallam, et ça en arabe, ça s'appelle le tasliya, l'encouragement. Quand Allah encourage le prophète sallam, pour lui dire qu'avant toi, on se moquait également des autres anbiya, des autres prophètes. C'est-à-dire qu'avant toi, Mohammed, d'autres prophètes ont été humiliés, enfin, dans le sens d'insulter. Ils ont été, on va dire, on les a pris à la légère, un peu à la dérision même. Donc, le message, c'est ne sois pas attristé, ne sois pas découragé par la réaction des hypocrites et des mouchriquines lorsqu'ils entendent les versets, et reste ferme dans ta mission et dans ta propagation du din. Et cet encouragement divin pour le prophète sallam nous fait prendre conscience de quelque chose. Ça nous parle directement, surtout de notre époque. On vit une époque on peut dire très clairement, avec une islamophobie qui devient ambiante et qui devient même le credo de certains partis, hein, d'accord, de certaines personnes qui veulent. Ils ont compris que si on veut être mis en avant, ben il faut toujours avoir une petite phrase islamophobe, et là tu es in. Wallah musta'an. Avec ce qui se passe, et les mamans qui sont couvertes ne pourront plus accompagner leurs enfants pour des sorties scolaires. Ce sont des choses, des situations qui sont dramatiques et qui sont totalement ridicules. Le monde anglo-saxon, ils doivent bien se moquer de nous. Et ils doivent être contents de le Brexit, je pense, hein, d'accord. Et même aux États-Unis et tout, subhanallah, il n'y a pas cette mentalité. Khayran ibtila, on va dire que c'est une épreuve qu'Allah envoie sur les croyants et les croyantes. Ben, quand on voit autant d'acharnement, parce que c'est le mot, hein, c'est de l'acharnement, quand on voit autant d'acharnement sur nos mères, sur nos sœurs qui sont voilées, et sur les croyants d'une façon générale, ben, on se dit que ce qu'on ressent à la lecture des articles, on a tous été affectés. Même si, je ne sais pas si nos mamans ou notre épouse, ou elles vont accompagner les enfants, même si on n'est pas concerné directement, mais on se dit que, ben, encore une fois, on prend un bâton pour taper encore sur les musulmans, les musulmanes, mais on se dit que, ben, n'oublions pas que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été insulté. Il a été traité de sorcier. Il a été traité de menteur. On a fait tuhma. On l'a accusé à tort que peut-être qu'il veut devenir le roi de la Mecque. Peut-être qu'il veut il recherche en finalité le pouvoir. Et c'est ce que certains Quraysh sont partis le proposer. Vous connaissez l'histoire des milices Mohammed. prends le pouvoir de la Mecque, on te donne, mais arrête, arrête avec cette mission. C'est-à-dire qu'autant de mauvaises pensées, on l'a traité de sorcier, on l'a traité de tous les noms, on l'a insulté, on a essayé de l'humilier, on l'a même frappé. N'a-t-il pas reçu des pierres lorsqu'il est parti inviter les Banu Thaqif. Dans quelle ville à Taïf au début de l'islam. N'a-t-il pas été blessé lors de la bataille de Uhud, où jamais un prophète n'a souffert autant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été même, on a même essayé de l'atteindre dans ce qui était le plus cher pour lui, sa propre famille, avec l'histoire de Aïcha radiallahu anha, qu'on appelle en arabe hadithul ifk, le grand mensonge, la grande calomnie. On a, ou certains, les hypocrites, ont essayé donc d'accuser Aïcha radiallahu anha d'avoir fait des choses, na'oud billah, et elle a été innocentée par Allah, Rabbul Izzah, par des versets. C'est-à-dire que tout ça a été fait contre le prophète. Le prophète a été ensorcelé. Le prophète a été empoisonné par une personne qui a amené de la viande, ensorcelé par l'abide qui avait pris de ses cheveux et avait fait un sort. Tout ça, c'était des épreuves que le prophète a subies. Donc, s'il y a le Habib, sallallahu alayhi wa sallam, qui pourtant est protégé par Allah, oui ou non ? Il est protégé par Allah, mais il a quand même connu ses difficultés. C'est un modèle pour nous. C'est notre uswa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uswa, c'est notre modèle dans la pratique, de la piété, de la fermeté, mais de le modèle aussi de patience. N'a-t-il pas été patient dans toutes ces situations? Ben, nous, si nous connaissons quelques, on va dire, quelques situations de frustration, ben, on va dire que c'est un grand honneur. C'est un grand honneur que de pouvoir vivre à moindre échelle un dixième ou un centième de ce que les sahaba, eux, ont vécu et ont connu à Mecca dans les premières années de difficultés. Et cette encouragement et cette inspiration, nous le trouvons dans le verset qui a été lu ce soir. Donc il y a un décalage entre celui qui écoute le Tarawih, voilà, comme nous tous, d'accord, et celui qui va essayer de creuser un petit peu, essayer de voir le sens des versets. Et ce verset-là, ça apporte du baume au cœur. On se dit que, ben, subhanallah, l'encouragement d'Allah à son prophète, sallam, c'est un encouragement d'une certaine façon pour nous aussi, ben, une leçon à retenir. Quoi que les gens puissent dire sur notre dîn, les accusations, ainsi de suite, les mensonges, ben, qu'on sache que avant nous, les Anbiya ont souffert également de ces mensonges et de ces accusations, mais ils sont restés fermes dans la foi. Qu'Allah donne la possibilité de prendre un peu plus de temps pour lire le Coran, comme on a vu, dans le mois béni, et essayer de travailler un petit peu le sens des versets, parce que cela nous sera profitable. Et on terminera par la citation de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est une vraie thèse, qui a une vraie purification intérieure. Il dit que fala shay, il n'y a rien qui est plus profitable pour le cœur du croyant que de lire le Coran en méditant sur le sens des versets, parce que cela lui apportera al-muhabba, l'amour d'Allah, al-khawf, la crainte d'Allah, al-raja, al-raja c'est quoi ? L'espoir en Allah, al-inaba, il pourra demander tawba, al-tawakkul, la confiance en Allah, al-rida, la satisfaction dans le décret divin, et al-shukr, la reconnaissance, al-sabr, la patience. Tout ça, ce sont des qualités intérieures, des a'mal al-qulub, que le mu'min va acquérir en étudiant les versets du Coran. Et également, son cœur sera nettoyé de tout ce qui est mauvais, de toutes les maladies spirituelles, la jalousie, l'ingratitude, ainsi de suite, tout ce qui nous ronge intérieurement, tout ça, par l'étude des versets. C'est extrêmement enrichissant. Ce cœur a été créé par Allah. Si on met dans ce cœur la parole d'Allah, ce cœur va s'émanciper et atteindre son plus haut degré et se remplir de lumière. Wa tawfiqillah billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jour J moins combien? Jeudi, on est quel jour là? Lundi, mardi?
Lundi.
Combien sera tout à l'heure? Oui, encore ici.
Jeudi.
Encore mardi? Encore mercredi? Et encore jeudi? D'accord? Et 1 et 2 et 3? D'accord? Et Inch'Allah, ensuite, c'est comme si que des portes du paradis nous seront entre-ouvertes. Inch'Allah, qu'Allah accepte et nous permette de voir et de connaître ces moments. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khairan.